L'oscillation entre constance et inconstance n'est-elle pas inhérente aux attractions passionnelles? Et au fond, n'est-ce pas ce problème-là précisément que cherchent à résoudre les institutions, et tout particulièrement l'institution du mariage?
Du mariage, et plus généralement du couple formant ménage, c'est-à-dire du couple en tant que base de la famille. Parce qu'au fond, dans le mariage, ce qui est désirable, ce n'est pas le mariage, pas la famille ni le ménage, c'est le couple. C'est bien lui d'ailleurs qui sert depuis les Lumières à vendre le mariage, à en assurer la promotion. De Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre à Aline et Valcourt de Sade, en passant par Rétif de la Bretonne et sa découverte australe. Le sage Rétif, ce maniaque du lien conjugal, imagine que l'on tempère l'obligation de la permanence et de la constance par la mobilité, le renouvellement annuel, la pleine liberté au sein même du lien conjugal. Et même lorsqu'il le teinte de polygamie, c'est pour mieux l'asseoir sur les bases de la nature.
Comment cela?
C'est anecdotique. Une sorte de cerise sur le gâteau, ce que René Scherrer appelle le paradoxe de l'infidélité, ou encore une polygamie mitigée, une polygamie échelonnée ou successive dans le temps en raison du mariage annuel, mais aussi synchronique ou simultanée, au moment où les femmes légitimes allaitent et parce que, en raison de l'excédent des filles, les hommes peuvent contracter des liaisons temporaires. Où l'on voit que la pratique de la polygamie serait facilitée aux hommes, comme si elle leur était plus constitutivement nécessaire qu'aux femmes. Mais l'idéal vers lequel tout converge, c'est le couple entouré d'enfants. Mais ce sont tous les philosophes de ce siècle dit des Lumières qui, contre les servitudes des mariages contraints, contre les abus de pouvoir des intérêts claniques et de l'autorité du pater familias, adoptent l'idée directrice du mariage par consentement réciproque, souvent tempéré par l'idée encore plus progressiste d'un divorce par consentement mutuel lui aussi.
Goethe lui-même, pour expliquer ce qu'il appelle les affinités électives, dans le roman du même nom, s'appuie sur une analogie avec les liaisons chimiques dans la nature, et ces affinités nomment la raison naturelle de la formation et de la décomposition des couples.
Pourriez-vous m'apprendre brièvement ce qu'il faut exactement entendre ici par affinité ?
Je le ferai volontiers, tout au moins aussi bien que je le pourrai. Nous remarquons d'abord, dans tous les produits de la nature qui nous tombent sous le sens, une attraction intime.
Il me semble que nous faciliterions les choses par des exemples. Représente-toi seulement l'eau, l'huile, le mercure. Tu y découvriras une unité, une cohésion des parties. Cette union, il n'y renonce point si ce n'est par la force ou par quelque autre cause déterminante. Qu'on écarte celle-ci. Ces corps se rassemblent, aussitôt à nouveau.
Sans aucun doute, les gouttes de pluie se réunissent volontiers en rivière. Et, déjà dans notre enfance, nous nous amusions avec surprise du mercure, quand nous le séparions en globules et le laissions ensuite se rassembler.
Je me permettrai de signaler au passage un point important. C'est que cette attraction à l'état pur, rendue possible par la fluidité, se manifeste nettement et toujours par la forme sphérique. La goutte d'eau qui tombe est ronde. Vous avez déjà parlé vous-même des globules de mercure. Même le plomb fondu, qui tombe, s'il a le temps de se prendre entièrement, arrive en bas sous la forme d'une boule.
Laissez-moi prendre les devants, pour voir si je toucherai le but où vous voulez en arriver. De même que chaque être a une attraction intime, de même il doit avoir un rapport à l'égard des autres.
Et ce rapport différera suivant la diversité des êtres. Tantôt il se rencontrera en amis et vieilles connaissances, qui se rapprochent, s'unissent promptement, sans modifier quoi que ce soit l'un à l'autre, comme le vin se mêle à l'eau. Par contre, d'autres s'obstinent à demeurer étrangers, côte à côte, et ne peuvent s'unir même par mélange mécanique et friction. Ainsi, l'huile et l'eau, si on les agite pour les mélanger, se séparent à l'instant.
Les substances qui, venant à se rencontrer, se saisissent rapidement l'une de l'autre et se déterminent mutuellement, nous reconnaissons entre elles de l'affinité. Cette affinité est assez frappante dans les alcalis et les acides, qui, bien qu'ils soient opposés les uns aux autres, et peut-être même à cause de cela, se recherchent et s'accrochent de la façon la plus prononcée, se modifient et forment ensemble un nouveau corps. Rappelons seulement la chaux, qui manifeste pour tous les acides une grande inclination, une tendance prononcée à l'union.
Ce sont les cas les plus complexes qui sont les plus intéressants. C'est par eux seulement qu'on apprend à connaître les degrés d'affinité, les attractions, proches et serrées, lointaines et lâches. Les affinités ne deviennent intéressantes que lorsqu'elles déterminent des séparations.
Reportons-nous donc à ce que nous avons déjà indiqué et discuté. Par exemple, ce que nous appelons pierre à chaux est une terre calcaire plus ou moins pure, intimement liée à un acide faible, que nous avons appris à connaître sous sa forme aérienne. Si l'on met un morceau de cette pierre dans de l'acide sulfurique dilué, l'acide s'empare de la chaux et se manifeste avec elle à l'état de gypse, tandis que cet acide faible, aérien, se dégage. Il s'est opéré une séparation, une nouvelle combinaison, et l'on se croit désormais autorisé à employer l'expression « d'affinité élective », parce qu'on dirait en effet qu'une relation a été préférée à l'autre, que l'une a été choisie plutôt que l'autre.
Pardonnez-moi, je ne saurais jamais voir ici un choix, mais plutôt une nécessité naturelle, et même à peine, car il ne s'agit peut-être finalement que d'une affaire d'occasion. L'occasion fait les combinaisons comme elle fait le larron, et quand il est question de vos substances naturelles, le choix me paraît se trouver uniquement dans les mains du chimiste qui rapproche ces substances. Une fois qu'elles sont ensemble, Dieu leur fasse grâce. Dans le cas présent, je ne plains que le pauvre acide aérien condamné à errer de nouveau dans l'infini.
Il ne tient qu'à lui de se combiner avec l'eau et de servir comme source minérale au rafraîchissement des bien portants et des malades.
Le gypse peut en parler à son aise. Il a fini, il est un corps, il est pourvu. Tandis que cet être banni peut avoir encore beaucoup à souffrir avant de trouver un refuge. Mais enfin, l'homme est à bien des degrés au-dessus de ses éléments. Et s'il s'est montré ici assez généreux de ses beaux mots de choix et d'affinité élective, il fera bien de rentrer en lui-même et de réfléchir à cette occasion à la valeur de ses expressions. Je sais, par malheur, assez de cas où l'union intime de deux êtres, et qui semblait indissoluble, a été détruite par l'intervention accidentelle d'un troisième, et où l'un de ceux qui avaient été si bellement unis s'est vu chasser au loin.
Mais alors, les chimistes sont beaucoup plus galants. Ils en ajoutent un quatrième, afin que personne ne s'en aille tout seul.
Il est clair que notre temps vit encore sous cette fascination du couple. La famille éclate certes, mais ne meurt pas, et chacun de ses fragments a hâte de la reconstituer à partir de son germe. Ainsi, même dans l'éclatement de la famille, c'est la famille qui gagne, ou plutôt, la base labile de sa permanente régénérescence, le couple formant ménage. C'est lui la véritable institution indéracinable.
Cette situation qui, vue sous le jour de la flexibilité des attachements, pourrait laisser penser que les mœurs se sont libérées et qu'il y aurait là comme une réalisation des espoirs de Fourier, vue sous le jour de sa réalité institutionnelle, apparaît bien plutôt comme la faillite totale de l'espérance fourriériste. Car celle-ci repose avant tout sur la nécessité de mettre à bas l'institution du mariage, dont le couple formant ménage est le noyau. Fourier avait 17 ans en 1789. Près de 60 ans plus tard, il écrivait encore.
Il a tenu à bien peu de choses que le vandalisme de 93 n'ait produit subitement une deuxième révolution aussi merveilleuse que la première était horrible. Le genre humain tout entier touchait à sa délivrance. L'ordre civilisé, barbare et sauvage, allait disparaître à jamais si cette convention nationale qui foulait tous les préjugés n'eût pas fléchi devant le seul qu'il importait d'abattre, devant celui du mariage. C'était le dernier retranchement de la civilisation. Elle s'y maintint pour reprendre bientôt l'offensive et rentrer dans tout son domaine.
Cette critique du mariage et de la famille repose sur une analogie avec le commerce. Fourier a été quelque temps courtier, et donc au fait de ce qu'il appelait l'escroquerie bourgeoise.
Pour rendre l'homme à lui-même, un retour à la nature, à l'individu, comme le pensait Rousseau, ne suffit pas. Parce que la fausseté est collective, produite collectivement par l'institution, la solution ne peut être que collective, requérant l'invention d'un nouvel ordre.
Un nouvel ordre, de nouveaux agencements sociaux. Fourier menait sa critique de la fausseté, des amours, dans la structure familiale civilisée, du point de l'idée d'une expérience sociale libératrice, qu'il nommait ménage progressif. Un nouveau code des garanties amoureuses, calqué sur la réalité des mœurs, établissant l'indistinction entre l'amant, l'époux, le géniteur, codifiant l'alternance, l'infidélité, voire une fidélité authentiquement consentie, la polygamie au moins partielle, mais comprise en un tout autre sens que chez Rétif de la Bretonne, puisque dégagée de l'institution du couple, qu'elle est supposée chez ce dernier rendre plus supportable.
à côté de la luxuriance de l'imagination fourriériste, ce que l'on vend aujourd'hui sous l'étiquette de mœurs libérées fait pâle figure. Et les obstacles demeurent, qui nous empêchent d'entendre l'idée d'une libération des passions, des attractions passionnées, capables de mettre à bas l'institution de la famille et du couple formant ménage. D'ailleurs, que devient le couple dans les édifices amoureux de Fourier ?
Il ne disparaît pas. On peut même dire que Fourier réinvestit le pouvoir de fascination qu'exerce le couple, qu'il l'instrumentalise au service d'une destruction de la famille. Mais la destruction de la famille comme institution de base de la société informant les rapports de production ne signifie pas une destruction de la famille tout court. La famille est libérée en même temps que le couple de sa captation familialiste. D'un côté, la famille peut devenir un nouvel objet de passion, la passion du familialisme, la possibilité laissée à un parent de gâter son enfant autant qu'il le veut, sans avoir pour cela à vivre avec lui et à pourvoir à son éducation. Symétriquement, Fourier développe toute une théorie du couple comme générateur de groupement. Il imagine par exemple la double institution du couple angélique et du couple pivotal. Le premier est formé par deux jeunes gens dont Laura attire autour d'eux une nuée de jeunes amants et maîtresses. Le second, formé par des gens plus âgés dont chacun épanouit de son côté autant d'amour qu'il souhaite et peut en supporter, donne figure à la possibilité d'une durée du lien amoureux, d'une fidélité qui ne serait plus subie puisque tramée au sein d'une multiplicité d'attractions érotiques vécues.
Les vues de Fourier, en tant qu'elles donnent corps à un projet de destruction de l'ordre social fondé sur la famille, supposent que l'on ne déserte pas le plan de la réflexion sur les institutions. Par là, je ne veux pas dire le droit, mais les moyens de donner corps à une idée à grande échelle. Il est clair que le nouveau monde amoureux rêvé par Fourier renvoie soit à une décision politique de l'ordre du décret, c'est pourquoi il regrettait tant le manque de courage de la Convention en 1993, soit à la constitution de contre-sociétés, de groupements larges qui se vivraient comme un état de sécession par rapport aux mœurs civilisées, et menant par là aussi une guerre.